En vain Cadmus, son aïeul, en vain Athamas et sa famille entière, condamnant sa colère, s'efforcent de le détourner de son dessein. Les conseils redoublent sa violence, elle s'accroît plus on veut l'arrêter, et ne fait que s'irriter du frein qu'on lui oppose. Ainsi j'ai vu Enthoran, libre dans sa marche, s'écouler sans violence et presque sans bruit. Mais que des troncs d'arbres, que des rocs entassés opposent une digue à son passage, il écume, il bouillonne et précipite ses flots irrités par l'obstacle même. Cependant les soldats reviennent tous sanglants. Leur maître leur demande où est Bacchus. Ils répondent qu'ils ne l'ont pas vu. « Mais voici, disent-ils, un de ses compagnons, un des ministres de ses autels, tombé entre nos mains. » En même temps, il lui livre, les mains attachées derrière le dos, un homme qui jadis avait quitté l'Étrurie pour suivre le dieu. Panthée le regarde avec des yeux que la colère rend terrible, et bien qu'il lui en coûte de différer le supplice. « Tu vas mourir, dit-il, et ta mort servira d'exemple à tes complices. Quel est ton nom, ta famille, ta patrie? Pourquoi es-tu devenu le ministre de ces nouveaux mystères ?» Sans crainte pour sa vie, l'étranger lui répond. « Mon nom est Acétès, et la Méonie mon pays. Je suis né de parents obscurs. Mon père ne m'a laissé ni des champs fécondés par de robustes taureaux, ni des brebis à la riche toison, ni d'autres troupeaux. Pauvre lui-même comme moi, devant sa vie à ses filets de lin et à ses hameçons, il s'occupait à tromper le poisson et à le tirer du sein de l'onde, suspendu à sa ligne et sautillant encore. Son métier faisait toute sa fortune. « Voilà, me dit-il en me l'enseignant, voilà tous les biens que je possède, ô mon fils, héritier et successeur de mes travaux. Et en mourant, il me légua les eaux pour tout héritage. C'est donc tout ce que je puis appeler mon patrimoine. » Bientôt, pour ne pas rester éternellement enchaîné au même rocher, j'appris à tenir en main et à gouverner le timon des navires, à lire dans les cieux et à connaître l'astre pluvieux de la chèvre amaltée, la constellation de Téguet, les yachts, l'ours, les demeures des vents et les ports propices aux vaisseaux. Un jour, tenant la route de Délos, j'approchai des côtes de Chio. La rame manœuvre à droite et me conduit au rivage. Je m'élance d'un bond léger, et mes pieds foulent les sables humiliés où nous passons la nuit. Aux premières lueurs de l'aurore, j'engage mes compagnons à puiser de l'eau vive, et je leur montre le chemin qui conduit aux fontaines. Je monte moi-même sur une éminence pour étudier les présages du vent. J'appelle mes compagnons et je retourne à mon navire. « Nous voici !» s'écrie Opheltès en s'avançant le premier. Et tout fier de la proie qu'il a trouvée dans un champ solitaire, il conduit le long du rivage un enfant d'une beauté virginale et qui, appesanti de sommeil et de vin, semble chanceler et le suivre avec peine. J'examine ses vêtements, sa figure, sa démarche, et mes yeux ne voient rien en lui qui annonce un mortel. Je le sens et je dis à mes compagnons. Je ne sais quel dieu se cache sous les traits de cet enfant, mais il cache un dieu. À qui que tu sois, protège-nous, montre-toi propice à nos travaux et pardonne à mes compagnons. « Cesse de prier pour nous !» s'écrie Dictys, le plus léger de tous, pour s'élancer à la cime de l'antenne ou pour se glisser le long des cordages qu'il preste sa main. Libis, le blond mélante qui veille sur la proue, et Alcimédon l'approuvent, ainsi qu'Épopée dont la voix commande aux rameurs le mouvement et le repos, ou ranime leur courage. Tous les autres matelots applaudissent, tant la soif du butin les aveugle. « Non, je ne souffrirai pas qu'un fardeau sacrilège profane ce vaisseau » m'écriai-je. « Plus que personne ici, j'ai le droit de commander. » Et je me poste à l'entrée du navire. Le plus emporté et le plus insolent de toute la troupe, Lycabas, qui banni de l'Étrurie, expié dans l'exil un affreux homicide, irrité de ma résistance, me frappe à la gorge de son poing vigoureux. La violence du coup m'aurait précipité au sein des flots, sans le secours d'un câble ou privé de mes facultés, je restais pourtant attaché. La troupe impie applaudit à son audace. Mais à la fin, Bacchus, car c'était Bacchus lui-même, comme si les cris avaient interrompu son sommeil et réveillé sa raison engourdie par les vapeurs du vin. « Que faites-vous » dit-il. « Quel est ce tumulte? D'où vient Matelot que je me trouve ici? Où voulez-vous me conduire ?»« Bannis toute crainte, » réplique le pilote, « et dis-moi quel port tu veux aborder. Tu descendras sur la terre qu'appellent tes désirs. »« Dirigez votre course vers Naxos, » répond Bacchus. « Là est ma demeure. Vous y trouverez un sol hospitalier. » Les perfides jurent par la mer et par toutes les divinités que son vœu sera satisfait, et il me presse d'abandonner au vent la voile du navire ornée de mille couleurs. Naxos était à droite, je tournai la proue de ce côté. « Que fais-tu, insensé ? » s'écrient les matelots. « Acétès, quelle fureur t'aveugle ! Tourne à gauche !» La plupart m'expliquent leurs pensées par des signes, les autres me la confient tout bas à l'oreille. Immobile d'horreur. Qu'un autre prenne le gouvernail, m'écriai-je. J'abdique un ministère de crime et de perfidie. Tous me gourmandent, la troupe entière éclate en murmures. Crois-tu donc, me dit Aétalion, un des matelots, que notre salut dépende de toi seul? Il saisit le gouvernail, commande à ma place, et s'éloigne de Naxos pour gagner le rivage opposé. Alors le dieu, d'un air badin, et comme s'il venait à peine de découvrir l'artifice, du haut de la poupe recourbée, promène ses regards sur la mer. Puis, feignant de pleurer, « Ce ne sont pas là, Nochet, les rivages que vous m'avez promis, ce n'est pas la terre que j'ai demandée. Qu'ai-je donc fait pour mériter ce traitement? Quelle gloire trouvez-vous à vous unir, fort de votre jeunesse et de votre nombre, pour tromper un enfant isolé ?» Cependant, je pleurais, la troupe impie se rit de mes larmes et agite les flots sous les coups redoublés de la rame. Ici, j'en atteste le dieu même, et il n'est pas de dieu plus puissant, mon récit est aussi vrai qu'il est peu vraisemblable. Le vaisseau s'arrête immobile au milieu des flots, comme s'il eût été à sec dans une rade. Les nautonniers surpris continuent de battre la mer avec les rames. Ils détendent les voiles et s'efforcent, par ce double secours, de mettre en mouvement le navire. Le lierre serpente autour des avirons, les embarrasse de ses nœuds flexibles et suspend ses grappes aux voiles appesanties. Bacchus lui-même, le front couronné de raisins, agite un javelot que le pampre environne. Couché autour de lui, simulacre terrible, apparaissent des tigres, des lynx et des panthères à la peau tachetée. Les nautonniers, soit frayeur ou vertige, s'élancent dans les flots. Médon le premier, sans être de sombres nageoires sur ses membres courbés et son dos s'arrondit en arc. « Quelle étrange métamorphose !» lui dit Lycabas, et sa bouche s'élargit en parlant, ses narines s'étendent et sa peau durcie se couvre d'écailles. Libis veut retourner la rame qui résiste, mais il voit ses mains se rétrécir. Déjà, elles ont perdu leur forme première, ce ne sont plus que des nageoires. Un autre avance les bras vers les cordages pour les débarrasser, mais il n'a plus de bras. Mutilé, il tombe dans la mer, et son corps se termine en une queue semblable à une faux ou au croissant de la lune quand elle nous montre la moitié de son disque. Ils bondissent de tous côtés et font jaillir en abondance l'eau qui retombe en pluie. On les voit se plonger au sein des flots, puis reparaître à leur surface, et s'y plonger encore, figurer des cœurs en se jouant, et dans leurs évolutions capricieuses, aspirer l'onde et la rejeter, en soufflant de leurs larges naseaux. De 20 nochers qui portaient le navire, je restais seul, tremblant et glacé d'épouvante. À peine suis-je rassuré par ces paroles du dieu. Bannis toute crainte et vogue vers le rivage de Naxos. Arrivé dans cette île, j'allume la flamme sur un autel et je célèbre les mystères de Bacchus. J'ai longtemps prêté l'oreille à tes fallacieux discours, dit Panthée, afin de donner à ma colère le temps de s'apaiser. Garde, hâtez-vous de le saisir, qu'on l'ôte de mes yeux, et qu'au milieu des plus cruels tourments, il descende au séjour ténébreux des morts. Entraîné sur le champ, Acétès est renfermé dans une sombre prison. Mais tandis qu'on prépare le fer et la flamme, terrible instrument de son supplice, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, dit-on. D'elles-mêmes et sans être détachées, les chaînes tombent de ses mains. Le fils d'Échion persiste. Il n'ordonne plus d'aller, il court lui-même sur le Cithéron, qui choisit pour la célébration des mystères, retentissait des cris perçants des bacchantes. Tel qu'un ardent coursier, lorsque les reins sonores de la trompette guerrière a donné le signal, frémit et respire le feu des combats, tel s'irrite Panthée au bruit des hurlements qui frappent au loin les airs, et les cris qu'il entend rallument sa fureur. Vers le milieu de la montagne est une plaine qu'entoure une forêt, mais dont l'enceinte nue et sans arbres s'offre libre à l'œil qui la contemple. C'est là que Panthée porte un regard profane sur les mystères. Agavée est la première qui l'aperçoit, et la première transportée de fureur, elle lui lance son tir et porte à son fils les premiers coups. « Yo ! » s'écrie-t-elle, « accourez, mes sœurs ! Ce monstrueux sanglier qui erre dans nos campagnes, c'est moi qui veux le frapper !» La troupe entière se jette avec fureur sur le Panthée. Tout ensemble, elles réunissent leurs coups contre lui seul. Elles le poursuivent ensemble. Déjà tremblant, déjà moins emporté dans son langage, il se condamne, il s'avoue coupable. Blessé, il s'écrie « Venez à mon secours, Autonoé, vous la sœur de ma mère. Laissez-vous fléchir par l'ombre d'Actéon. » Elle ne se souvient plus d'Actéon et déchire la main de celui qui l'implore. L'autre est arraché par Ino. L'infortuné n'a plus de bras qu'il puisse élever vers sa mère, mais lui montrant son corps sanglant et mutilé. « Regarde ma mère !» dit-il. Agacé, jette sur lui les yeux, pousse des hurlements affreux et secoue sa tête et ses cheveux abandonnés au vent. Elle arrache la tête de son fils et, la prenant dans ses mains ensanglantées, elle s'écrie « Yo, mes compagnes, cette victoire est mon ouvrage !» Les feuilles, effleurées par le vent froid de l'automne et qui tiennent à peine à la cime des arbres, ne sont pas plus vite emportées qu'on ne voit tomber en lambeaux les membres de Panthée sous les coups impies des Bacchantes. Instruites par cet exemple, les Thébaines célèbrent les mystères du nouveau dieu, lui offrent l'encens et révèrent les autels qui lui sont consacrés.